La Vénérable Anne de Guigné par le Cercle des Amis Anna Maria Goretti. Anne, enfant difficile. Dès l'âge de 2 ans, Anne manifestait un tempérament très coléreux. Personne ne pouvait lui faire concurrence. Lorsqu'elle eut un petit frère, elle devint si jalouse qu'un jour, elle lui donna un coup de pied dans la tête. Une autre fois, alors que le bébé était assis sur les genoux de sa maman, Anne lui lança une poignée de sable dans les yeux. Son caractère emporté semblait tellement indomptable que son grand-père dit à ses parents « Il va vous donner du fil à retordre. Je vous plains quand elle aura 20 ans. » Mais cela était différent. Parce qu'il allait changer de tout au tout. Bientôt, le tempérament coléreux de la fillette allait être vaincu par son bon cœur, par la souffrance. Le père d'Anne partit pour la guerre le 2 août 1914 comme lieutenant de chasseurs alpins. Dès la première année de guerre, il fut blessé par 3 fois. La comtesse de Guigné dira: Anne ne voyait plus son père si doux et aimant, et sa maman avait un visage triste et soucieux. Dans son petit cœur, Anne ressentait déjà la nécessité de la consoler. Après sa première blessure, le père put rentrer au château familial, la cour, près d'Annecy. La mère d'Anne se souvient. Anne essayait de m'aider à soigner son père, et se donnait toutes les peines du monde pour lui rendre 1000 services, et lui apportait ses béquilles et tout ce dont il pouvait avoir besoin. La séparation fut déchirante. De plus en plus, Anne partageait mon chagrin et essayait de me consoler. Le 22 juillet 1915, le père tomba dans les Vosges lors de l'assaut de la crête du linge. L'aumônier militaire témoignera. Et il se confessa en toute simplicité devant tous les soldats. J'avais devant moi un personnage semblable au héros de légende et une des plus belles âmes qu'il m'ait été donné de rencontrer pendant cette guerre, où Dieu pourtant m'a fait percevoir des choses magnifiques. Le directeur de conscience du comte écrivit après sa mort: Notre Jacques était digne d'être emporté dans la fine fleur de l'âge. C'était une folle blanche qui s'empourpra. La métamorphose. La gouvernante d'Anne, Mademoiselle Madeleine Bassé, raconte: La mort de son père causa un changement total chez Anne. On peut presque dire que ce fut sa conversion. La mère se souvient de l'annonce de la mort. Anne était bouleversée. Elle me regardait tout triste et pleurait avec moi. Elle me comblait de caresses. C'est à cette période que Dieu et son père placèrent dans son cœur cette douceur délicate qui sait comment soulager la douleur des autres. Mais la mienne était si grande que je n'ai pu ressentir tout de suite le bienfait que cet enfant me procurait. La chère petite restait près de moi et me tenait compagnie. Elle me contemplait et essayait de me consoler. Elle n'avait que 4 ans et 3 mois. La marraine d'Anne, tante Jeanne, pria encore longtemps après le requiem officiel pour le père d'Anne. Soudain, elle remarqua que l'enfant était encore auprès d'elle et lui demanda « Tu ne trouves pas cela long ?»« Oh non, tante Jeanne, je parle avec l'enfant Jésus. » Ce disant, elle fixait des yeux le tabernacle. Des roses sans épines. La maman d'Anne raconte: Lorsqu'elle était encore petite, Anne disait et disait à chaque renoncement « J'ai fait mon sacrifice ». Plus tard, au contraire, elle essaya de cacher ses mortifications continuelles. Lorsqu'on la remarquait, Elle rougissait un peu, mais ne disait rien. Je ne lui permettais pourtant rien qui puisse nuire à sa santé, car rien ne l'aurait arrêté. Il aurait aimé que son frère et ses sœurs fussent parfaits. C'est pourquoi elle essayait toujours de les exhorter à être bons. L'un de ses plus durs sacrifices a dû être de ne plus leur faire de petites remontrances dont on lui avait dit qu'elles n'étaient pas nécessaires. La gouvernante d'Anne se souvient. Anne avait pris la résolution de cueillir pendant tous les mois d'octobre des roses sans épines pour les vouer à la reine du rosaire. Qu'est-ce que cela signifiait? Elle voulait remplir sa journée de sacrifices accomplis sans contrainte, avec joie et amour. Il fallait bien la connaître pour s'apercevoir les derniers temps de ce qui lui coûtait, car avec un visage rayonnant, il acceptait tout. Anne, on a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent pas. Celle qui dure, c'est d'avoir fait un sacrifice. Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. Obéissante, par amour. Sur la page, on peut lire la résolution prise par Anne lors de sa première communion. Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je prends la résolution d'obéir toujours. Dans une petite lettre à sa mère, Anne lui écrit: chère maman chérie, j'aime vous de tout mon cœur. Je serai toujours très sage pour faire plaisir au cher petit Jésus et pour faire plaisir à maman. Le petit Jésus me semble qu'il m'a répondu de mon cœur. Je disais que je voulais être bien obéissante et il m'a semblé que j'entendais oui, sois-le. Je vous embrasse de tout mon cœur. Sa tante, Maine, rapporte: pour cette petite âme rayonnante, l'obéissance avait de loin le parle sur le sacrifice. Je pouvais parfois observer 5, 10, même 20 fois dans la journée, ma petite chérie entrait en sautillant dans la chambre de sa mère, légère comme une libellule, et l'embrassait et lui demandait doucement: maman, qu'est-ce qui est mieux, ceci ou cela? La maman donnait une réponse brève, et Anne, rayonnante de joie à la pensée de pouvoir faire ce qui était mieux, repartait encore plus légère qu'elle ne était venue, et obéissait aussi à la moindre remarque. On l'entendait parfois, même en dormant, dire: oui, maman. Une amie dit d'Anne: c'était l'obéissance même. Je le veux. Je le veux. Le confesseur d'Anne se souvient. Ce qui m'a frappé le plus la première fois où je l'ai vu après sa première communion, aux alentours de Pâques, c'était son air décidé qui dominait tout. Elle n'était pas mignonne. J'ai le souvenir d'une enfant qui veut accomplir son devoir, et je dirais même avec une certaine obstination. Sa tante Maine témoigne: oh, si tu l'avais vue se battre alors qu'elle était toute petite. Elle essayait de se maîtriser pour ne pas faire de peine au bon Dieu. Elle avait la figure toute rouge et elle serrait ses petits poings pour rester bonne. Sa gouvernante rapporte des anecdotes semblables. Pour ne pas se mettre en colère, lorsque ses frères et sœurs la dérangeaient dans ses occupations, ce qui arrivait très souvent, elle se tournait vers moi. Quand même, c'est à désespérer, je pourrais me mettre en colère. Mais elle ne se mettait pas en rage, elle maîtrisait sa colère. Et la mère d'Anne raconte « Je ne l'ai jamais vu donner à un de ses propres désirs la préférence devant ses devoirs. Elle aimait beaucoup lire, par exemple, mais si son frère ou ses sœurs l'appelaient pour jouer avec eux, alors qu'elle était plongée dans un livre, elle arrêtait aussitôt de lire et allait les rejoindre. » Et de même, sa catéchiste mère Saint-Raymond. On la dérangeait, on la bousculait, on voulait s'asseoir près d'elle. Cela ne lui était pas facile, mais elle se laissait déranger et bousculer, toujours prête à servir. Pure comme un lit. Anne. Je veux que pour Jésus mon cœur soit pur comme un lit. Sa tante Mène écrit « Si tu l'avais connu comme moi, tu l'aurais entendu chanter, vu courir et faire des cabrioles et sauter au cou de sa mère. Mais elle était justement joyeuse comme un jeune oiseau et légère comme un papillon, parce que son âme était pure comme un lit. » Et la maman d'Anne. La pureté qui rayonnait dans le regard d'Anne inspirait le respect. Une cousine dit « On ne peut pas la regarder sans devenir mieux et meilleur et penser à Dieu. » Germaine, l'amie la plus intime d'Anne, dit « Anne avait un amour de Dieu qu'il est impossible d'exprimer par des paroles. » C'est à elle qu'Anne confie le secret de son cœur. « Jésus m'aime beaucoup et moi aussi, je l'aime beaucoup. » La gouvernante d'Anne raconte « Je sentais qu'Anne brûlait du désir ardent de voir que Jésus soit aimé et servi. Ses yeux se remplissaient de larmes lorsqu'elle entendait parler de l'ingratitude des hommes envers notre Sauveur. Elle disait toujours « Il faut beaucoup aimer le bon Jésus. » Mère Saint-Raymond, la catéchiste d'Anne, lui demande un jour « Quel est le plus grand bonheur sur terre ?» Anne répond « Souffrir beaucoup pour le bon Dieu. » L'amour des autres et l'oubli de soi. Mère Saint-Raymond témoignera « Elle était parvenue à l'oubli absolu d'elle-même. À ses yeux, elle n'existait plus. Elle n'avait pas même une pensée pour elle-même. » La maman d'Anne se souvient, l'effacement d'Anne était extraordinaire et elle ne vivait plus que pour les autres, quel qu'en soit le prix. Lors d'un long voyage en auto que nous avions entrepris, cette chère enfant prit la peine de tenir sur ses genoux une de ses petites sœurs que le voyage avait rendue malade, alors qu'elle-même avait des maux de tête. Elle se rangeait ainsi, tant bien que mal, tout en tenant de la main libre son chapelet, et elle priait inlassablement. Seul les traits altérés de son visage trahissaient sa lassitude. Cependant, j'avais toutes les peines du monde à la convaincre de se reposer, car elle craignait que je me fatigue trop. Mène, la tante d'Anne, raconte. On n'a jamais pu dire qu'Anne ait craint quelque chose et je n'ai moi-même jamais découvert chez elle un signe de peur. Je suis persuadée que la seule chose qui ait pu la faire trembler était d'offenser Dieu. Je ne sais de quoi elle aurait été capable pour empêcher un outrage envers Dieu. Que n'inventait-elle pas pour que ses frères et sœurs soient bons? Les petits disaient « Anne, c'est notre petit bon Dieu. » La compassion. Sa gouvernante rapporte. Elle pensait aussi aux souffrances si nombreuses dans le monde. Elle les comprenait et y compatissait, mais elle ajoutait avec une foi profonde « Je comprends très bien qu'on souffre et qu'on ait de la peine, mais pourquoi se tourmenter puisque Dieu est là ?» Une cousine raconte. Un jour, les cousines montaient au château de la cour, lorsqu'un petit chaton pelé et à demi-mort de faim les suivit tout le long du chemin. À leur arrivée, les enfants les entourèrent aussitôt. En demandant la permission de garder le chaton, et pendant qu'on lui apportait une jatte de lait, Anne le prit dans ses bras, s'assit avec lui et le caressait et le regardait avec une expression de bonté et de pitié indicible. Une autre fois, Anne entendit quelqu'un dire « Cette pelote de laine est mitée, on peut la jeter. » Elle pensa immédiatement à un petit pauvre pour qui elle travaillait et dit « Donnez-la-moi, s'il vous plaît, je nouerai les bouts. » Il noua tous les fils et les tricota. La maman d'Anne se souvient. Ce qui est aussi admirable, c'est que pendant toute sa maladie, il n'a jamais prié pour elle. Lorsque je lui disais d'invoquer la petite Thérèse et d'ajouter « Fais que je guérisse », elle répétait docilement. « Petite Thérèse, fais que je guérisse » et guérissait aussi tous les autres malades. Les pauvres pécheurs. Germaine, l'amie d'Anne, raconte. Quand Anne parlait des pécheurs, on sentait combien son âme était troublée. Elle était profondément triste et soucieuse. Lorsqu'elle entendait que tel malheureux avait offensé le Sauveur, elle priait aussitôt. « Mon Dieu, pardonnez-lui !» Elle levait les yeux au ciel avec une expression angélique. Son visage semblait transfiguré. Puis elle s'efforçait de faire pénitence et de consoler le cœur divin. On voyait qu'elle-même souffrait de la douleur que Jésus éprouvait à cause des outrages des hommes. Son visage s'attristait comme si c'était à elle qu'on avait fait du mal. Combien elle aurait aimé sauver toutes les âmes. Elle les aimait toutes. La maman d'Anne. Sauver une âme en la reconduisant vers Dieu était son idéal. Pour atteindre ce but, aucune peine lui semblait trop grande. Elle aimait qu'on lui confie une âme qui devait être convertie. Et lorsqu'elle apprenait que la grâce avait remporté la victoire dans cette âme, le cœur de ce petit apôtre débordait de joie et de gratitude. Mère Saint-Raymond. Une fois qu'elle s'était engagée pour la conversion d'une âme, elle faisait sacrifice sur sacrifice et demandait sans cesse des nouvelles de son pauvre pécheur et montrait pour lui un intérêt inlassable. Le mort et la mort héroïque d'Anne, 19 décembre 1921, 14 janvier 1922. Sa gouvernante raconte, le premier jour de sa maladie, Anne avec le visage crispé de douleur, et pourtant, pas une plainte ne passa ses lèvres. La mère d'Anne, les maux de tête et de dos était insupportable. Après une crise particulièrement douloureuse qui lui avait tiré des larmes, je la consolais. Tu as souffert bien courageusement, ma chérie. Tu as sûrement consolé le corps de Jésus et contribué à la conversion des pécheurs. Elle répondit. Oh, maman, comme je suis heureuse. Si c'est ainsi, je veux bien souffrir encore. Parfois, il offrait même heure par heure ses souffrances pour la grâce de ceux qui lui en avaient fait et a eu fait la demande. À tout moment, il disait « Maman chérie, je vous aime » et m'envoyait un baiser. Et plaçait toute sa tendresse dans cet adieu déchirant. La chère enfant craignait sans cesse de n'être pas assez pure et de ne pas souffrir assez courageusement. Mais un doux sourire finit par éclairer son visage, et il dit « Je suis heureuse ». Le samedi 14 janvier 1922, à 5h25 du matin, son âme quitta son corps. Sa gouvernante, Anne nous a laissé une paix qui dépasse tout ce que je pourrais exprimer par des paroles. Prière pour obtenir la glorification d'Anne de Guigné. Mon Dieu, nous vous remercions des grâces spirituelles dont il vous a plu de combler votre petite servante, Anne de Guigné, et nous vous demandons pour votre gloire et pour notre salut de daigner glorifier cet enfant qui n'a vécu que pour vous sur la terre et de nous obtenir par son intercession, si cela est conforme à votre sainte volonté.